Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commente les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Yaël Mellul et Fred Hermel. Et on va commencer avec les poursuites du jour.
Les poursuites du jour, c'est un sale temps pour le sport français, c'est peu de le dire. On sait que de hier, le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, a été placé en garde à vue pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et désormais, on apprend que le président de la Ligue nationale de handball, vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis. Il était poursuivi pour corruption et enregistrement d'images pédopornographiques. Bruno Martini a été déféré hier au tribunal de Paris et il avait choisi une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est-à-dire qu'il reconnaît les faits et a aménagé sa peine avec le juge.
Alors c'est corruption de mineur et ouais. En fait il a conversé sur un réseau social avec un mineur de 13 ans, il a essayé de le faire venir chez lui et le mineur au dernier moment, alors qu'il avait payé le taxi, il a pris peur, il en a parlé à ses parents et ils sont allés prévenir la police.
Et mais puis il y avait des tensions d'images pédopornographiques.
Exactement. C'est incroyable ce qui se passe actuellement, Yael Mellul.
C'est glaçant en fait. Et moi, ce qui me fait un peu peur dans cette affaire précisément, c'est que j'ai cru comprendre que ce monsieur avait 52 ans, ouais. Que ça faisait quand même pas mal de décennies qu'il est dans le milieu sportif.
Il était gardien de l'équipe de France de handball, donc voilà.
Donc ouais, toute sa vie en réalité.
Il a participé aux belles heures.
J'ai bien peur que se cache une certaine sérialité derrière ce.
Ça va y avoir une enquête, toute
voilà.
façon.
Donc il va y avoir une enquête et c'est terrible pour le gamin et puis en même temps il a plaidé coupable donc il a voilà on a des aveux avec de fait c'est souvent le cas une condamnation légère un an avec sursis
c'est très léger quand même
c'est extrêmement léger mais ça vient faire le contrepoids de l'aveu de culpabilité
on peut espérer que ce soit démis de ses fonctions surtout
il faudrait aussi que la ministre des Sports ait la même sévérité qu'elle a pu avoir dernièrement avec le tweet qu'il y a eu contre Zizou. Parce que là, on est quand même dans quelque chose de.
Alors, elle vient de communiquer effectivement et elle dit voilà que là, pour le coup, les instances du handball vont se réunir. Et elle a une pensée également pour le jeune garçon de 13 ans et elle incite effectivement les mineurs à parler à leurs parents et pour éviter
bien sûr
ce genre de choses. Mais effectivement, un an avec sursis, ça paraît
paraît léger. Et surtout, c'est pas rassurant pour les parents parce que quand t'es parent, que t'envoies tes enfants faire du judo, du basket, du handball, du foot, du quoi que ce soit. De savoir qu'il peut pas être aux mains de prédateurs quoi. Donc moi qui adore le sport, c'est glaçant quoi, c'est glaçant et Martini c'est pas n'importe qui hein.
Enfin,
c'est
bien sûr
pour ceux qui s'intéressent au sport, aussi, c'est qu'on parle
c'est
alors, les plus anciens,
du handball, hein.
C'est de l'équipe des Barjots qui est champion du monde etc. Enfin on parle d'une figure du sport français, c'est glaçant. Ouais.
On va passer au refus du jour.
Ouais, ça s'est passé hier sur BFM TV qui diffusait un débat politique sur la réforme des retraites. Comme invité notamment Mathilde Panot de la France Insoumise, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ou encore Jordan Bardella du RN. Et il y a eu un petit incident avant même le début de l'émission, c'est-à-dire qu'en coulisses, lorsque les invités politiques sont arrivés, Mathilde Panot a refusé de serrer la main à Jordan Bardella. Les présentateurs de l'émission, Maxime Suitec, est revenu sur l'incident en début d'émission. On lui a demandé à Mathilde Panot pour quelle était la raison de cette attitude et elle leur a répondu que pour elle le RN ne serait jamais un parti comme les autres et qu'elle donc refusait de serrer la main à l'un de ses élus.
Oui, elle a refusé également de serrer la main d'Olivier Véran. Ouais. C'est ridicule ou c'est logique pour vous, Thierry Moreau ?
Je trouve ça assez ridicule. On est dans un système démocratique qui fait que on demande pas aux hommes politiques qui s'écharpent à l'Assemblée, qui débattent, qui sont pas d'accord, qui peuvent être violemment pas d'accord, un peu de civilité. Je trouve que justement, ça met de l'huile dans les rouages démocratiques. C'est justement parce que on est civilisé qu'on peut se parler, qu'on peut discuter, absolument, et donc qu'on peut débattre et s'affronter. Et je pense que mettre une limite entre des gens infréquentables et des gens fréquentables ne me paraît pas être une bonne façon d'être un élu de la République.
Oui, d'ailleurs, Jordan Bardella lui a dit derrière que si elle voulait rassembler la France, c'était pas forcément la bonne.
Ce qui n'est pas complètement faux. Non, mais surtout, il y a des millions et des millions de Français qui ont voté, qui votent et qui voteront pour le Rassemblement National, que ce soit législatif, 89 députés, c'est pas rien. Deux fois en cinq ans, deuxième tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen. C'est pas Jordan Bardella qu'elle refuse de serrer la main. C'est à des millions et des millions de Français.
Yael Mellul,
c'est beau ce qu'il vient de dire.
D'accord, bon,
on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. Et moi, je trouve, il n'y a rien de plus. Je pense qu'une insulte est moins fort qu'un refus de serrer la main.
Ah mais moi
horrible. Tu peux dire connard à quelqu'un, oui, mais refuser de lui serrer la main, c'est d'une violence.
C'est un manque de respect. C'est discourtois, c'est inélégant, voilà, aussi. Enfin, ça remplit toutes les cases d'un comportement qui va pas, en fait. Enfin, je veux dire, et qui va. Ce sont des élus, les deux. Je veux dire, à un moment donné, il faut le respecter en tant qu'élu.
Ce n'est pas des factions.
Voilà, c'est tout. Voilà. Et ce qu'il représente. Et c'est en ça où je dis ce que tu as dit, c'est beau. Voilà, parce qu'il représente des gens. Il y a des gens derrière, quoi. Voilà.
On va passer, ça c'est extraordinaire, à la nouveauté du jour, Rémi.
La nouveauté du jour, un signe de la main. Depuis début janvier, la région Nouvelle-Aquitaine tente une nouvelle formule dans les trois gares, enfin trois de ces gares SNCF qui se situent en Corrèze. Ce sont trois petites gares de campagne où, sur le quai, il faut lever le bras si l'on veut que le train s'arrête et vous prenne. De la même manière, lorsque vous êtes dans le train, si vous voulez descendre dans l'une de ces gares, bien, il faut aller avertir le conducteur. Un moyen d'éviter la fermeture de ces petites stations ferroviaires et aussi d'éviter de perdre du temps.
Mais c'est n'importe quoi.
Bah non, c'est très bien. Bah,
les bus, arrêtez, Fred. On vient au 19e siècle.
Mais si ça permet de...
Qu'est-ce que c'est, ça, là? Je trouve ça, c'est du pragmatisme.
Mais bien sûr, c'est pas le TGV non plus, hein.
Non.
C'est pas le Paris-Lyon que t'essaies d'arrêter. Un conseil.
Enfin, c'est pas le petit train qui passe,
C'est des petites lignes, c'est des trains de wagons et tout, ça roule pas très vite. Alors, un conseil. C'est mieux de lever la main, pas jeter son chat, hein. Genre, j'ai dit, c'est le truc pour faire. Une mauvaise blague. Mais non, mais sérieux, on le fait en bus, des fois, on fait un appel au bus. Pourquoi on ferait pas un appel au
bus? Quand t'es en bus, quand t'es dans l'arrêt, le type s'arrête, bah là, c'est
Non, il y a des arrêts, il faut montrer la main.
Chauffeur. Enfin, ça va plus.
Ah non,
excusez-moi, ces petites lignes, ça va.
Quand vous hélez votre taxi, vous levez la main aussi, c'est pareil. Bah, c'est le même système, c'est pas idiot, c'est pragmatique.
Bah, je vais pas lever la main pour arrêter un train.
On parle d'un train, là, on parle pas d'un taxi.
Un train, ça ne s'arrête pas comme un bus. Donc, si systématiquement.
Merci.
C'est très pragmatique. Un train, s'il marque un arrêt à une station ferroviaire, donc si on laisse la gare ouverte, le train s'arrête, il va mettre de nombreuses minutes avant de redémarrer c'est autant de perte de temps pour les voyageurs. C'est pour ça que ces petites lignes ne sont plus utilisées. Vous devez mettre une heure pour faire 25 km entre deux communes. Voilà.
Mais avant, tu t'arrêtais tout le temps pour personne. Alors que là, t'arrêtes qu'il y a un quai.
C'est ce que je dis. Ça évite de perdre du temps et de laisser ces petites stations ouvertes.
Et excusez-moi, quand vous êtes dans le train, comment on fait pour s'arrêter? C'est-à-dire que vous devez.
Vous allez voir le chauffeur pour lui dire est-ce que je vais m'arrêter à la prochaine gare.
Exactement.
C'est très simple. C'est pas des trains qui font 3 km de long. C'est génial. Et en plus, tout le monde se connaît. En général, c'est le même chauffeur qu'on voit souvent.
Ah bah, Roger, comment tu vas?
Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le train,
Le train de Balagne, en Corse.
Que nous connaissons bien tous les deux.
Il opère exactement comme ça. Et ça marche très bien.
Oui, mais c'est la Corse.
La Corse peut être un exemple pour beaucoup de régions, y compris pour la Bretagne, madame Estelle Denis.
Mademoiselle Estelle Denis. N'oubliez jamais.
Moi, je préférerais que ce soit une électrification, que ce soit de plus de lignes, et que ça aille plus vite, etc. Vous voyez, plutôt que
ça. Ça va plus vite parce que justement, on s'arrête pas à toutes les gares. Vous voyez, comme ça, ça va dans le bon sens.
Ouais, enfin, bravo. Je suis pas sûr. Enfin,
bravo, la région Aquitaine.
J'ai envie de vous dire, ça vous fait plaisir. Bon, bah, écoutez, continuez à appeler le train en levant la main. C'est formidable. Bon, l'enquête du jour.
L'enquête du jour, je ne l'ai plus.
Tu veux que je te la lise?
Attends, si je l'ai, selon des informations de France Télévisions, plusieurs membres du syndicat de police Alliance sont visés par des procédures judiciaires pour violation du secret professionnel à Paris et à Marseille. À l'origine, suivez bien, un policier parisien qui aurait, à la demande du syndicat Alliance, informé l'un de ses collègues accusé de violence conjugale du contenu de la procédure qui le visait. Convoqué par la police des polices pour s'expliquer, l'informateur présumé s'est depuis donné la mort.
Et je sais que vous êtes scandalisé par cette affaire, Yael Mellul.
Je viens d'apprendre. Parce que il y a un suicide, donc au final, c'est absolument gravissime. Voilà, c'est gravissime. Je sais pas quoi dire.
Ça révèle en fait deux dysfonctionnements. Un premier dysfonctionnement, c'est où un collègue pense rendre service à un autre collègue en toute illégalité en informant ce qu'il y a dans une plainte.
Et lors d'une première audition, il aurait affirmé, je dis bien sous le conditionnel, l'enquête est en cours, mais il aurait affirmé que, en fait, c'est le syndicat de police Alliance qui lui aurait demandé, il y a un collègue qui est visé par une procédure pour violence conjugale, est-ce que tu peux regarder les PV, nous dire ou lui dire, l'informer de ce qu'il y a dedans, comme ça il pourra mieux se défendre.
Ça c'est le premier dysfonctionnement. Et le deuxième dysfonctionnement, évidemment le plus dramatique, c'est que la personne en question qui aurait dû être jugée, condamnée à une peine, se donne la mort. On est dans l'absolue irrationalité. Enfin, c'est un scandale d'un bout à l'autre cette histoire.
Et on va terminer avec la déclaration du jour.
La déclaration du jour, dans une interview, le pape François réaffirme la doctrine de l'Église sur l'homosexualité. Il estime que les lois pénalisant l'homosexualité à travers le monde sont injustes, mais déclare que cette orientation sexuelle est un péché. L'homosexualité n'est pas un crime, mais un péché.
C'est terrible.
C'est effrayant parce que...
Il a dû se dire, tiens, je vais essayer d'être progressiste, mais ça c'est faux.
Mais ça, il n'y a que les bobos pour croire que François est progressiste. Ce pape est un désastre pour l'Église catholique, et je suis catholique pratiquant, je vais à la messe tous les dimanches. C'est un désastre, et les gens s'imaginent. De toute façon, c'est le pape des gens qui ne sont pas chrétiens et qui n'aiment pas l'Église. Donc déjà, et les gens découvrent ce qu'est ce pape. Non, ce type a voulu entraver la légalisation de l'avortement dans son pays d'origine qui s'appelle l'Argentine. Ce pape est un faux progressiste. C'est du n'importe quoi.
Ah ben là, c'est sûr que c'est pas très progressiste.
Voilà. Simplement, le péché. Je veux dire, moi, j'ai une conception du péché. Le péché, c'est de ne pas aimer quand on est chrétien.
Le catéchisme, l'adultère est un péché. Les couples certaines pratiques sexuelles sont des péchés. Pourtant, il y a bien des couples mariés qui sont dans le péché. Pourquoi on imposerait à les homosexuels quelque chose de plus répressif une autre population? Je trouve ça absolument hallucinant.
C'est un faux progressiste. Il y a plein de gens qui sont laissés avoir par lui. Voilà.